sont tirés de votre livre « Les morts ont la parole » aux éditions Kens. Et donc demain, deux autres histoires tirées là encore de vos livres. Je vous dis à demain donc. Allez, salut.
Et oui, demain vous retrouvez Christophe Ondelatte pour une nouvelle histoire de 14h à 15h sur Europe 1. Et sur Europe 1, Pascal Praud, c'est deux rendez-vous par jour. D'abord avec l'heure des pros de 9h à 9h30 en codiffusion avec CNews. Et ensuite de 11h à 13h où Pascal vous donne la parole. Alors n'hésitez pas, appelez demain Pascal Praud de 11h à 13h dans Pascal Praud et vous. Vous appelez tout simplement le numéro non surtaxé 01 80 20 39 21. Excellent après-midi avec tout de suite Stéphane Bern.
Sur Europe 1. Émilie Dez, les infos.
Bonjour Christophe, bonjour à tous. Il y avait déjà eu Rima Hassan, la militante franco-palestinienne et candidate insoumise aux européennes la semaine dernière. C'est désormais au tour de Mathilde Panot, la présidente des députés insoumis, d'être convoquée par la police judiciaire pour apologie du terrorisme. Alexis de la Fontaine, bonjour.
Bonjour.
Et qu'est-ce que les enquêteurs reprochent à la France insoumise ?
Eh bien, les enquêteurs souhaitent que Mathilde Panot clarifie le communiqué de la France insoumise du 7 octobre, jour du pogrom perpétré par le Hamas. Le parti de Jean-Luc Mélenchon y rejetait le caractère terroriste de cette attaque, préférant parler d'offensive armée palestinienne face, je cite, à l'occupation israélienne, alors que le Hamas est considéré comme une organisation terroriste par la France et l'Union européenne. Cette convocation intervient quelques jours après celle de Rima Hassan pour apologie du terrorisme également. De son côté, Jean-Luc Mélenchon dénonce une censure pour protéger le génocide israélien et renforcer sa stratégie de victimisation.
Merci Alexis. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Au moins 5 migrants, dont une petite fille de 7 ans, sont morts la nuit dernière alors qu'ils tentaient de traverser la Manche au niveau de la plage de Vimereux. Un mouvement de foule serait à l'origine du drame. Avec ce drame, au moins 15 personnes ont perdu la vie en tentant de traverser la Manche depuis le début de l'année, selon un décompte de l'AFP. C'est déjà plus que toute l'année dernière. Notez que le Parlement britannique a approuvé un projet de loi qui permet l'expulsion vers le Rwanda des demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni. L'ONU appelle le gouvernement britannique à reconsidérer son plan. Un professeur du collège Bellevue à Toulouse a été agressé et menacé de mort par l'un de ses élèves seulement parce qu'il l'avait repris sur son comportement. L'élève avait de lourds antécédents disciplinaire, l'enseignant et le principal ont porté plainte. La marque Habitat va se relancer en ligne 5 mois après la liquidation judiciaire de ses magasins. Les quelques 9000 clients lésés pourront demander un bon d'achat sur le site habitat.fr. Habitat, fondé en 1964, employait 400 salariés. L'UFC Que Choisir révèle qu'un tiers des crèmes solaires utilisées pour le visage n'assurent pas le niveau de protection affiché. 13 crèmes solaires très haute protection, 50 et 50 plus ont été testées. 4 d'entre elles n'atteignent qu'une protection correspondant à un indice 30. Et puis, il a neigé en Finlande, des chutes de neige exceptionnelles pour une fin avril. 8 cm de poudreuse ont été relevées dans la capitale Helsinki, jusqu'à 20 cm dans le sud. Les transports sont perturbés.
Europe 1.
15h03 sur Europe 1, historiquement vôtre, c'est maintenant.
Je suis Gaspard, roi et mage, et voici Balthazar.
15h-16h sur Europe 1.
Alors reprenez votre place à la table ronde, la vraie.
Historiquement vôtre.
The successor to the kings and queens of history.
Je n'ai jamais pu renoncer à la lumière.
Il va y avoir un bal.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Comme chaque jour à 15h et pendant une heure, je vous invite à découvrir sur Europe 1 la véritable histoire d'un personnage, homme ou femme, qui a marqué l'histoire, qui l'a changé aussi, parfois en passant sous les radars. Des personnages, mais aussi des lieux où l'histoire s'est jouée ou des événements marquants et que j'ai choisi de vous raconter.
Et aujourd'hui, de 15h à 16h sur Europe 1, c'est sur le champ de bataille que Stéphane Bern nous entraîne dans son récit du jour.
Cet après-midi, on remonte haut, très haut dans le temps, au Moyen-Âge, puisque je vous raconte une bataille. Celle menée par un roi français, Philippe Auguste, qui n'avait qu'une obsession, chasser le colosse anglais. Et il a gagné. Ou la véritable histoire de la bataille de Bouvines, un tournant dans l'histoire du royaume des Francs. Pourquoi cette bataille marque-t-elle une étape dans la construction du sentiment national ? Quelle est la valeur symbolique de cet événement ? Y a-t-il des constantes en histoire ? Pour répondre à ces questions et bien d'autres encore, j'ai le plaisir d'accueillir un essayiste qui raconte la bataille dans son nouveau livre, Bonjour Gaël Nofri.
Bonjour.
Qu'est-ce qui distingue Bouvines des autres batailles clés de notre histoire nationale selon vous ?
C'est qu'à Bouvines, tout est réuni. C'est un moment important, un moment crucial, un moment déterminant. On a des batailles, le Moyen-Âge en est plein, de petites batailles qui ne vont pas avoir un cours déterminant. On voit le Moyen-Âge est fait de périodes de guerre entrecoupées, de traités qui n'ont rien de définitif. Bouvines va fixer à la fois la destinée du royaume de France, en même temps qu'elle va fixer aussi d'ailleurs la destinée pour une part de l'Empire germanique et pour une part du royaume d'Angleterre.
Vous publiez donc Bouvines, l'invention de la souveraineté aux éditions Passé Composé. On va continuer à en parler ensemble, Gaël Nofri, juste après mon récit.
Europe 1,
15h, 16h, historiquement vôtre.
Le récit, Stéphane Bern.
La scène que je m'en vais vous raconter s'est déroulée voici un peu plus de 8 siècles. Un jour d'été de 1214, le 27 juillet exactement. Nous n'avons pas de photo, mais un tableau a saisi l'instant à la fois champêtre et solennel. Un instant crucial, on le sent. Sous un gros chêne noueux, un jeune homme à l'expression sincère, exalté, se tient main sur le cœur face à une assemblée de chevaliers en armes. De son autre main, il montre une couronne posée sur un autel. Maintenant, il prend la parole. « Seigneur, vous êtes tous mes hommes et je suis votre sire, et bien que tel, je suis comme vous. Et si vous croyez que la couronne devait, par l'un de vous, être mieux portée que par moi, je l'ôterai et la lui remettrai de bon cœur et de bonne volonté. » À ces mots, les barons se récrient aussitôt, unanimement et avec ardeur. « Sire, pour Dieu, merci. Nous ne voulons d'autre roi que vous. Nous voulons chevaucher hardiment contre vos ennemis et sommes disposés à mourir avec vous. » Sur le tableau, on les voit incliner leurs armes en signe de soumission, tandis qu'à l'arrière-plan, on aperçoit les lances dressées du peuple en armes. Sur le côté, deux évêques à cheval observent la scène avec satisfaction. Tout est en place pour le jugement de Dieu, la grande bataille qui s'annonce entre Philippe Auguste, le roi des Francs, qui vient de voir confirmer sa légitimité, et la foule des ennemis du royaume coalisés contre lui, des Anglais, des Germains et plusieurs de ses vassaux, traîtres à leur suzerain. Les armes, avec l'aide de Dieu, vont tout à l'heure trancher toutes les querelles et décider de l'avenir du pays. La scène se déroule près du village de Bouvines, près de Lille, dans le nord de la France. Le tableau, signé Horace Vernet, est exposé depuis 1837 dans la galerie des batailles du château de Versailles, où sont immortalisés les grands combats qui ont fait l'histoire de France. Bouvines, c'est le symbole d'une nation en train de se construire, sous l'impulsion des rois capétiens. D'un territoire morcelé au peuplement hétérogène, va naître pas à pas un grand royaume, fort d'une histoire longue et glorieuse. Voilà, ça c'est le message de Bouvines. Le message officiel. Car le tableau de Vernet, commandité par le roi Charles X, tient en réalité largement de la propagande à une époque où la royauté, en pleine restauration, a bien besoin de justifier son existence. Mais dans les faits, que s'est-il vraiment passé à Bouvines ? Qu'est-ce qui s'est joué ce jour de juillet 1214 ? Quittons maintenant la fiction idéalisée du tableau et je vous emmène dans la France du XIIIe siècle.
Et oui, restez bien avec nous cet après-midi. Vous l'avez compris, Stéphane Bern nous raconte la véritable histoire de la bataille de Bouvines, un tournant dans l'histoire du royaume des Francs. C'est sur Europe 1 dans Historiquement Vôtre. A tout de suite.
Europe 1, 15h, 16h, Historiquement Vôtre.
Et si vous aviez l'occasion de rouler en première classe au prix de la seconde ? DS Automobile présente le surclassement en DS7 Crossback d'occasion. Car si ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux ? Jusqu'au 30 avril, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS7 Crossback Intense hybride rechargeable d'occasion à partir de 390€ par mois. Surclassez-vous avec DS Certified. Voir conditions sur dscertified.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Hey, les industriels, si vous m'entendez, c'est grâce à vous. Oui, vous, les fabricants de matériel audio, d'énergie, de coton-tige.
L'industrie est derrière chaque objet du quotidien. Et derrière l'industrie, il y a RS et son million de pièces livrables en 24 heures pour assurer la continuité de votre activité. RS, vous avez le savoir-faire, nous fournissons le reste.
Une urgence sur votre pare-brise ? Appelez Carglass au 3044.
3044.
Avec le 3044, vous êtes sûr de parler à un vrai conseiller Carglass et l'appel est gratuit. N'oubliez pas, une urgence sur votre pare-brise, appelez Carglass au 3044.
3044.
Et l'appel est gratuit.
Carglass répare, Carglass remplace.
Europe 1,
15h, 16h,
historiquement vôtre.
Merci de nous rejoindre et bienvenue sur Europe 1. À 15h10 cet après-midi, Stéphane Bern continue de nous raconter la célèbre bataille de Bouvines au cœur du Moyen-Âge, une bataille entrée dans l'histoire au cours de laquelle le roi des Francs, Philippe Auguste, affronte une large coalition.
À l'aube du 27 juillet 1214, alors qu'il mène ses troupes à travers le comté de Flandre, Philippe Auguste n'a pas prévu de livrer une bataille historique ce jour-là. D'abord, le roi des Francs sait que la coalition de ses ennemis possède des troupes très certainement supérieures en nombre et qu'un affrontement général serait hasardeux. La guerre à cette époque est plus souvent faite d'escarmouches qui se concluent par des traités ou des retraites plutôt que par des batailles décisives. Ensuite, c'est aujourd'hui dimanche et dimanche c'est le jour dédié au Seigneur. On ne se bat pas le dimanche. Le pape a imposé la trêve de Dieu et Philippe Auguste respecte cela. N'est-il pas le fils très chrétien de l'Église ? Le roi et ses prédécesseurs capétiens tirent leur pouvoir de l'élection du comte de Paris, Hugues Capet, par ses pairs en 987. Mais ils se font aussi sacrer au nom de Dieu, à Reims si possible, dans la lignée des deux dynasties qui les ont précédées, Clovis et les Mérovingiens, puis Charlemagne et les Carolingiens. Leur couronne est le fruit d'un pacte avec l'Église. Ce matin-là, Philippe Auguste fait alors route vers la place de Lille, où il compte faire un repli stratégique. Il pense peut-être à la guerre, mais plus sûrement à son prochain coup sur l'échiquier, qu'est alors la France, et à tous les stratagèmes dont il a l'habitude d'user pour accroître son pouvoir. Il faut dire que côté combine politique, le roi n'est pas un novice. Si le tableau d'Horace Vernet accroché à Versailles le dépeint juvénile, le matin de Bouvines, il a en réalité 49 ans, en 1214, et surtout il est roi depuis 34 ans. Depuis qu'il est monté sur le trône, âgé seulement de 15 ans, sa grande affaire, son unique obsession, a été d'augmenter le petit domaine royal dont il a hérité. Pour décrire les premiers Capétiens, l'historien Achille Luchaire évoquait au début du XXe siècle, je le cite, « un mélange singulier de misère et de grandeur, le contraste de l'impuissance réelle avec l'éclat du titre et du prestige de la fonction ». Tout est dit, ou presque. Les Capétiens tiennent leur couronne de leur élection par les ducs et les comtes, mais cette royauté est essentiellement théorique. Chacun dans son fief possède ses armées et fait sa loi. Le roi peut leur demander fidélité, aide et conseil. Il reçoit leur hommage, possède un droit de regard sur leur succession, mais il n'a pas les moyens d'imposer sa volonté. Son domaine, là où il est vraiment le souverain, c'est quoi ? Ben c'est un petit rectangle autour de Paris qui va de Sens à Orléans et de Mantes à Senlis, un peu plus que l'Île-de-France actuelle, à laquelle on ajoute le comté de Bourges, le Gâtinais et le Vexin français. Autant dire que les petites possessions capétiennes ne pèsent pas lourd face aux grandes maisons qui sont pourtant sur le papier ses vassaux, Champagne, Alsace, Bourgogne. Sans parler de la plus puissante d'entre toutes, la dynastie des Plantagenêts qui possède l'immense Aquitaine, l'Anjou, le Maine, la Touraine, la Normandie et aussi la suzeraineté sur la Bretagne et l'Auvergne, au bas mot, plus de la moitié de la France. Et depuis 1154, cerise sur le gâteau, les Plantagenêts ont également coiffé la couronne d'Angleterre. D'abord Henri II, le fondateur de la dynastie, puis ses fils Richard Cœur de Lion et Jean Santerre. Que ceux-ci doivent théoriquement rendre hommage aux Capétiens alors qu'ils dominent un territoire 10 fois plus étendu semble relever de l'aberration. Mais pas pour Philippe Auguste. Comme ses prédécesseurs, le roi des Francs prend au mot le mandat qui a été concédé à Hugues Capet. De la fiction d'une souveraineté, il entend bien faire une réalité. Et tous les moyens sont bons. Coup de force, alliance, manipulation, corruption et mariage, forcément. Dès la première année de son règne, Philippe Auguste épouse ainsi Isabelle de Hainaut, dont la dot lui apporte les terres d'Artois et l'hommage de plusieurs comtés de Flandre. Le Capétien pousse ainsi vers le nord. Mais c'est contre les puissants Plantagenêts que le gros de ses efforts va porter. Jouant sur les divisions entre Henri II et ses fils, s'alliant avec l'un, soutenant la rébellion d'un autre, il entretient la zizanie et profite de chaque moment de faiblesse. On le verra assiégeant Le Mans aux côtés de Richard Cœur de Lion contre son père Henri II, puis soutenir les prétentions au trône de Jean Santerre contre ce même Richard Cœur de Lion, et ça marche. Prenant prétexte à partir de 1202 d'un conflit qui oppose Jean Santerre, arrivé au pouvoir, à l'un de ses propres vassaux, Philippe Auguste parvient à s'emparer de la Normandie, puis du Maine, de l'Anjou, et le prive même de son influence en Bretagne. Voici Jean Santerre bouté outre-Manche. Philippe Auguste a frappé là un gros coup. Trop gros, peut-être. Dans la partie de Gaulle entre dominants que constitue le système féodal, le petit roi devenu grand commence à faire peur. Jean Santerre, qui n'a pas dit son dernier mot, parvient à rallier plusieurs vassaux de Philippe Auguste ainsi que l'empereur germanique Othon IV, qui n'est autre que son neveu. Et c'est ainsi qu'en 1214, le roi des Francs se retrouve en bien mauvaise posture, pris en étau par une coalition redoutable. Au sud, le roi Plantagenet est revenu. Il a débarqué à La Rochelle. Tandis qu'au nord, c'est l'empereur germanique Othon IV qui fait route avec ses seigneurs et plusieurs barons français mécontents. Cette fois, il y a péril en la demeure.
Et c'est justement ce que nous allons découvrir dans la suite du récit avec Stéphane Bern, qui dans Historiquement Vôtre aujourd'hui sur Europe 1, nous raconte la bataille de Bouvines menée par le roi des Francs, Philippe Auguste. À tout de suite.
Europe 1, 15h-16h.
Historiquement Vôtre.
Tout savoir sur le reconditionnement des voitures d'occasion avec Autosphère. Laurent, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre expert auto. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'un véhicule d'occasion reconditionné ?
Alors, c'est comme un véhicule d'occasion qui serait sorti d'usine. Il a suivi un processus de rénovation pour retrouver sa première jeunesse. Mmh. C'est ce qu'a fait Autosphère en mettant au point un parcours très rigoureux de remise en état qui se finit par une vérification qualité sur 100 points de contrôle.
Et que garantit Autosphère dans sa démarche de reconditionnement ?
Alors souvent, avec l'achat d'une voiture d'occasion, on a peur des défauts cachés du véhicule, des coûts d'entretien.
C'est vrai.
Eh bien, grâce à un reconditionnement minutieux, Autosphère assure une qualité irréprochable et la fiabilité de ses véhicules. Et il y a même une garantie de 12 mois minimum incluse, valable dans ses 250 concessions en France.
Ça, c'est rassurant.
Ah oui, et Autosphère permet aussi à ses clients de se faire rembourser sous 30 jours ou 1000 km s'ils ne sont pas satisfaits, ce qui est un vrai gage de confiance. Et les conditions sont sur autosphère.fr.
Merci Laurent pour ces explications.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Chez Poltrone Sofa, le confort est surprenant. Découvrez Savazza et laissez-vous étonner par ses dossiers réglables en un seul geste.
Jusqu'à samedi, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1 536 €.
Venez vous étonner en magasin. Poltrone Sofa, solo divani di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
C'était bien ce leasing électrique. Ça rendait vraiment la voiture électrique accessible.
Oui, mais Fiat n'a pas attendu ça pour être accessible.
What?
Bah, Fiat étend le bonus écologique de 7 000 € à tous.
3 000 € de remise en plus ?
Et la Fiat 500 électrique est à partir de 79 € par mois seulement.
Plus de prise de tête, on file chez Fiat.
Fiat, l'électrique pour tous, mais surtout pour vous. LLD 37 mois, apport de 2 650 €, bonus éco 4 000 €, remise éco Fiat 3 000 € et prime à la conversion de 1 500 € déduits si accord crédit part jusqu'au 30 avril. Détails sur fiat.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Fiat. Europe 1, 15h-16h,
Historiquement Vôtre.
Excellent après-midi sur Europe 1 avec Stéphane Bern dans Historiquement Vôtre qui nous raconte la bataille de Bouvines qui au Moyen-Âge a marqué un tournant dans l'histoire du royaume des Francs avec le roi Philippe Auguste pris en étau par une coalition redoutable et pour lui, comme pour tout le pays, l'heure de vérité a sonné.
Ce jour de juillet 1214, le roi des Francs ne le sait pas encore, mais il va jouer sa vie. Selon le chroniqueur Guillaume Le Breton, notre principale source sur les événements, le roi, alors qu'il a été informé que l'armée ennemie le suit de près, renonce une première fois à livrer bataille, ne voulant pas combattre un dimanche. Mais à midi, alors que le gros de ses troupes franchit le pont de Bouvines sur la Marque et qu'il a ôté son armure pour déjeuner sous un frêne, un messager se présente. Ah oui, un frêne. Rappelez-vous, Horace Vernet, lui, dans son tableau, avait peint un chêne. C'est qu'un chêne, bon, ça fait plus chic, c'est plus majestueux. Et surtout, c'est l'arbre de Saint-Louis, le glorieux petit-fils de Philippe Auguste. C'est mieux pour le symbole, non ? Mais revenons à Bouvines. Le messager annonce au roi que l'ennemi, ne respectant aucune trêve, a attaqué son arrière-garde. Philippe Auguste s'isole un moment dans l'église du village et prend sa décision. Il adresse à Dieu une prière. « Seigneur, je ne suis qu'un homme, mais roi de France est cet homme. » Chevauché devant, je suivrai et partout après vous j'irai. Puis à l'extérieur, il harangue ses troupes. Allons en toute hâte porter secours à nos compagnons. Dieu ne s'irritera pas si nous prenons les armes en ce jour sacré contre ceux qui viennent nous attaquer. Se défendre, interprète-t-il, n'est pas violer la trêve de Dieu, mais c'est au contraire combattre en son nom. Toute l'armée capétienne se met aussitôt en ordre de bataille. On va régler les comptes ici et maintenant. L'évaluation des effectifs en présence varie, mais pour Gaël Nofri, notre invité cet après-midi, qui vient de signer un nouveau récit sur la bataille, Philippe Auguste dispose d'environ 7000 hommes, dont 1000 chevaliers, quand la coalition menée par Othon IV en rassemble 10 000, dont 1800 chevaliers. La partie est déséquilibrée. Mais ça aurait dû être bien pire, car si des Anglais combattent aux côtés d'Othon, l'armée de Jean sans terre, qui, souvenez-vous, avait débarqué à La Rochelle, ne sera pas au rendez-vous. Trahi au dernier moment par la noblesse poitevine, le roi anglais qui montait vers le nord a été mis en déroute le 2 juillet, alors qu'il assiégeait la place forte de La Roche-aux-Moines sur la Loire. C'est le prince Louis, le fils de Philippe Auguste, déjà associé au trône, comme c'était de tradition chez les premiers Capétiens, le prince Louis donc, qu'il a fait se débander avec une pourtant modeste armée de 2000 hommes. Précisons que Jean sans terre sera d'un bout à l'autre de sa carrière un piètre stratège, doublé d'un monarque cruel. Il naquit, il est vrai, sous des auspices ambigus. On l'a surnommé Jean sans terre parce que son père Henri II ne l'avait tout simplement pas prévu dans le partage de ses possessions, lui le dernier de ses 5 fils. En tout cas, son absence à Bouvines fait bien l'affaire du Capétien. Les deux armées sont maintenant face à face. Côté Capétien, les chevaliers de Bourgogne, de Champagne et de Picardie occupent l'aile droite, défiant les forces venues de Flandre et du Hainaut menées par le comte Ferrand. La présence de ce dernier dans le camp de l'empereur Othon IV illustre bien l'imbroglio des relations entre puissants. Ferrand n'est pas du tout d'origine flamande, il est le fils cadet du roi de Portugal. Et c'est Philippe Auguste lui-même qui lui a fait épouser l'héritière du comté afin de disposer d'un allié. Sauf que Ferrand, pour gouverner les Flamands, a dû tenir compte de leur soif d'indépendance et des liens qui les unissent avec l'Angleterre, un partenaire commercial essentiel. Détail supplémentaire, si Ferrand est le vassal du roi de France pour une partie de ses terres, il est également celui de l'empereur germanique pour une autre part. C'est compliqué le jeu des alliances, oui je vous l'accorde. Mais attendez de voir qui le clan capétien trouve face à lui sur l'aile gauche. Renaud de Dammartin, un chevalier qui vient d'Île-de-France et qui fut un très proche de Philippe Auguste. Soutenu par ce dernier, Renaud n'avait pas hésité à enlever l'héritière du comté de Boulogne pour l'épouser et revenir ensuite s'imposer comme le nouveau comte. Depuis lors, ses fidélités n'ont cessé de varier, jusqu'à se rallier finalement à Jean sans terre et devenir l'un des principaux artisans de la coalition contre le roi des Francs. Bref, le traître parfait. Le représentant du parti de l'étranger, pouvait-on dire déjà. Enfin, au centre du champ de bataille, Philippe Auguste fait face à l'empereur Othon IV, son adversaire le plus haut en lignée. Tadam ! Ça y est, tout est en place, la partie peut enfin commencer.
Eh oui, nous y sommes, Stéphane Bern nous raconte la bataille de Bouvines. Je crois que tout le monde est prêt, et nous aussi. C'est dans Historiquement Vôtre, de 15h à 16h. À tout de suite, sur Europe 1.
Bonjour, c'est Pascal Pro sur Europe 1.
Oui, bonjour Pascal.
Ce qui compte, c'est vous.
Je pense que vous êtes la voix de personnes qui n'osent rien dire et qui sont majoritaires quand même dans ce pays.
Il faut se réveiller un petit peu à un moment donné.
Je sors pas le soir non accompagné.
Est-ce que c'est normal ?
Pascal Pro et vous.
Merci d'être comme vous êtes tous, au cœur des choses.
Alors je vous attends de 9h à 9h30 et de 11h à 13h. À demain sur Europe 1.
Visio Confucius. Tu vois, toi qui travailles à ton compte, la mutuelle de demain te permettra d'être indemnisé si t'es arrêté.
Ok, ben ta mutuelle de demain m'aurait bien servi aujourd'hui en fait, parce que là, mes clients, ils comprennent rien à ce que je dis.
Être obligé de travailler quand on est arrêté, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, les professionnels bénéficient de garanties santé ou prévoyance adaptées à leur statut, comme l'indemnisation perte de revenus en cas d'arrêt de travail. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon norme WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vérissure, la protection adaptée à chacun.
C'est à mon tour de prendre soin de mes parents pour qu'ils soient en sécurité, seuls chez eux.
Ils ne seront jamais seuls avec le bouton SOS de l'alarme Vérissure. Nos agents réagissent 24 heures sur 24 et alertent les secours si besoin. Rendez-vous sur Vérissure.fr pour profiter de moins 50% sur nos packs. Offre soumise à conditions. Un service opéré par Vérissure, société agréée CNAPS.
Europe 1, le journal permanent.
Merci d'avoir choisi Europe 1 de 15h à 16h. Stéphane Bern nous raconte aujourd'hui la bataille de Bouvines, un tournant dans l'histoire du royaume des Francs.
Mais juste avant, retour dans le présent avec le journal permanent et le rappel de l'actualité de ce mardi 23 avril. Et c'est avec vous, Émilie Dèze.
Ils avaient promis une trêve olympique d'un an en septembre dernier. Les contrôleurs aériens seront en grève jeudi et c'est un jeudi noir qui s'annonce avec 75% de vols supprimés à Orly, 65% à Roissy. Des retards sont aussi à prévoir. Une mobilisation record après l'échec des négociations, notamment sur les hausses de salaire. Jean-Luc Mélenchon y voit une volonté de protéger un génocide à Gaza. La chef de file des députés insoumis, Mathilde Panot, est convoquée par la police pour apologie du terrorisme. Le 7 octobre, le groupe LFI avait publié un communiqué qui faisait un parallèle entre l'attaque du Hamas et l'intensification de la politique d'occupation israélienne dans les territoires palestiniens. Au moins 5 migrants, dont une enfant de 7 ans, sont morts après avoir tenté de traverser la Manche depuis le Pas-de-Calais la nuit dernière. C'est un mouvement de foule qui aurait fait basculer l'embarcation. Une enquête a été ouverte. L'an dernier, plus de 29 400 migrants ont rejoint illégalement les côtes anglaises. C'est le gendarme de la vie privée des Français. La CNIL a enregistré l'année dernière un nombre record de plaintes et une hausse des fuites de données. En début d'année, France Travail a notamment été visé par une cyberattaque. Et puis Olivier Giroud rejoindra le Los Angeles FC l'été prochain. Le meilleur buteur de l'équipe de France, âgé de 37 ans, était en fin de contrat avec l'AC Milan. Il s'est engagé pour un an et demi avec le club californien.
C'était Émilie Dès sur Europe 1. Émilie Dès revient pour vous informer dès 16h, juste avant Sophie et les copains.
Europe 1, 15h, 16h, historiquement vôtre.
Et pour le moment, dans Historiquement vôtre, on remonte au Moyen-Âge avec Stéphane Bern qui nous raconte sur Europe 1 la véritable histoire de la bataille de Bouvines, un tournant dans l'histoire du royaume des Francs que l'on suit pas à pas.
Nous sommes donc en 1214 et l'avenir du royaume de France se joue à Bouvines sous le soleil écrasant d'un après-midi de juillet. Gardons à l'esprit que le récit de l'action, tel que nous le connaissons, vient pour l'essentiel du chroniqueur Guillaume le Breton, qui assista bien à l'événement, mais qui était surtout un proche compagnon du roi Philippe Auguste. L'issue de la bataille, en revanche, ne fait-elle aucun doute. L'engagement débute sur l'aile droite. C'est une troupe de sergents à cheval venus de Soissons qui se lance contre le chevalier flamand, bientôt suivi par la fine fleur de la noblesse française, les seigneurs de Melun, Beaumont, Montmorency, Saint-Paul, le duc de Bourgogne. Au cœur du tumulte, un cri soudain se fait entendre, venu des rangs coalisés. À mort les Français !» L'invective révolte et soude le camp capétien qui redouble d'ardeur. Cette anecdote est-elle avérée ? Plus tard, elle pourra en tout cas nourrir le roman national. Mais repartons sur le champ de bataille. Au centre où l'étendard de Philippe Auguste fait face à l'emblème de l'empereur germanique au ton 4, une aigle surplombant un dragon, l'affrontement prend un tour dramatique. Tandis que les chevaliers des deux camps croisent le fer, un groupe d'hommes à pied de l'empereur les contourne et entoure Philippe Auguste. Puis avec des crochets et des lance-minces, ils parviennent à le mettre à terre. Oui, le roi a été mis à terre et on cherche à le tuer. La stratégie est inédite, presque inconcevable. Pour Guillaume le Breton, elle a été soigneusement planifiée. L'armure du souverain le sauve un temps, puis c'est un petit groupe de chevaliers français qui se précipite à son secours. L'un d'eux, Pierre Tristan, héroïque, descend de son cheval pour se jeter au-devant des coups. Les piétons ennemis sont dispersés. Le roi, se relevant, saute à nouveau sur son cheval avec une étonnante légèreté, précise la chronique. On se bat maintenant depuis 3 heures. Sur l'aile droite, le comte Ferrand, qui commande les Flamands, se trouve en difficulté. Blessé, exténué, il se résout. Il lui faut se rendre. Le voici capturé. Précisons que dans la guerre médiévale, on cherche davantage à faire prisonnier qu'à tuer. Le noble choisit son adversaire et s'il le capture, le traite avec respect. On demande rançon, mais on en profite pour faire sa connaissance. Dieu sait ce que l'avenir nous réserve. Il s'agit d'éviter de s'exposer à une rancune tenace, voire à des demandes judiciaires. Quoi qu'il en soit, le comte Ferrand prisonnier, on dira plus tard pour faire un bon mot, Ferrand Ferré, provoque la fuite de nombreux flamands. C'est là le tournant de la bataille. Un duc fait déjà défection du côté germanique. Il faut dire qu'Henri de Brabant est le beau-père d'Othon IV, mais également le gendre de Philippe Auguste. Il avait donc longtemps hésité à choisir son camp. Sentant le vent tourner, il quitte le champ de bataille. Dans l'ost médiéval qui rassemble différents alliés, les ducs, les comtes et les porteurs de bannières conservent une autonomie de commandement. On se coordonne, bien sûr, mais rien à voir avec la stricte discipline des armées modernes. Maintenant, à Bouvines, c'est la chevalerie française qui lance l'assaut vers l'empereur. L'armée des coalisés recule. Dans la confusion, un Français s'empare un instant de la bride du cheval d'Othon IV, avant qu'on ne tue sous lui sa propre monture. L'empereur se dégage, puis s'enfuit, à bride abattue, disparaissant bientôt dans la plaine. On ne le reverra plus. Dans le camp germanique, Renaud de Dammartin se bat encore avec l'énergie du désespoir. Un traître, certes, mais plein de panache. Il faut que son cheval s'abatte sur lui, coinçant sa jambe droite pour qu'enfin il se rende. C'en est fini. La bataille a duré 6 heures, montre en main, même si je crois bien qu'il n'en portait pas de montre. La victoire de Philippe Auguste est complète. C'est un triomphe sur tous les tableaux et sur celui d'Horace Vernet aussi d'ailleurs. À Bouvines, Philippe Auguste a fait 127 prisonniers, dont 25 barons et 5 comtes. Les rançons viendront enrichir le trésor royal. Parmi eux, on compte 2 belles prises. Les comtes Ferrand et Renaud de Dammartin qui serviront longtemps de moyen de pression pour mener de fructueuses négociations. Renaud de Dammartin, lui, ne recouvrera jamais la liberté. Il se suicide en 1227 après plus de 12 années de captivité. Autre bénéfice de cette journée, la fuite d'Othon qui mène à sa propre chute. Philippe Auguste a fait parvenir l'emblème impérial à son rival, Frédéric de Hohenstaufen, qui s'empare de la couronne. Dans le siècle à venir, l'affaiblissement de l'Empire permettra aux Capétiens d'étendre leur suzeraineté sur des territoires jusqu'alors sous influence impériale. La Provence, Lyon, le Vivarais, puis le Dauphiné et un jour la Bourgogne. Le royaume de France pousse vers l'Est. Mais la conséquence essentielle de Bouvines, c'est la défaite de Jean sans Terre qui, en septembre 1214, doit concéder le traité de Chinon dans lequel il renonce à ses prétentions sur toutes les anciennes possessions plantagenées sur le continent. Ne lui reste plus de la dot de sa mère, Aliénor d'Aquitaine, que le sud de la province, la Guyenne. Jean sans Terre n'est plus que roi d'Angleterre, et encore plus pour très longtemps. Philippe Auguste, qui rentre triomphalement à Paris, met d'emblée en scène sa victoire. Bouvines, c'est le jour où il faillit être tué, mais où il triompha grâce à l'aide de Dieu. La légende est en marche.
Et oui, restez bien avec nous sur Europe 1. Stéphane Bern nous raconte dans un instant la suite et la fin de la bataille de Bouvines, un tournant dans l'histoire du royaume des Francs. Et pour en parler, Stéphane Bern recevra avant 16h l'essayiste Gaël Nofri. A tout de suite dans Historiquement Vôtre sur Europe 1.
Europe 1, 15h-16h, Historiquement Vôtre.
C'est si bon.
Charolaise.
Parthenaise.
À l'orléanaise.
À la bolognaise.
À la lyonnaise.
À la mayonnaise.
À la nivernaise.
À la landaise.
À la bordelaise.
À la rochelaise.
À la marseillaise.
À la basquaise.
À la piémontaise.
À la castraise.
Façon Thérèse.
À la française.
Chaud comme la braise.
Chez nous, le bœuf. C'est si bon. Il y en a pour toutes les bouches.
Oui, oui.
Chez Poltrone Sofa, le confort est surprenant. Découvrez sa vaste et laissez-vous étonner par ses dossiers réglables en un seul geste.
Jusqu'à samedi, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1 536 €.
Venez vous étonner en magasin. Poltrone Sofa, solo divan et de qualité.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité. Vérifiez conditions en magasin.
Europe 1,
15h, 16h.
Historiquement vôtre.
Et sur Europe 1, votre après-midi continue avec Stéphane Bern. Historiquement vôtre, la suite. Avec aujourd'hui la véritable histoire de la bataille de Bouvines, alors que le roi Philippe Auguste en sort grand vainqueur. Un triomphe qu'il met en scène, Stéphane nous le disait, et la légende est en marche.
Grâce à sa victoire à Bouvines, Philippe Auguste agrandit nettement le domaine royal et renforce sa suzeraineté dans de nombreuses provinces françaises. Son règne, entre 1180 et 1223, est une étape majeure dans la construction de la France telle que nous la connaissons. Mais c'est un territoire qu'il construit, pas un peuple qu'il mène à l'indépendance. Dans divers documents, Philippe Auguste commence d'ailleurs à se désigner comme le roi de France et non plus comme le roi des Francs. Il participe à la réunion de peuples divers, empreints de cultures différentes, parlant différentes langues. Et les combats qu'il mène tiennent davantage de la lutte entre une poignée de grandes familles dominantes aux alliances enchevêtrées que de l'affrontement contre des agresseurs extérieurs. Bouvines, pour autant, sera pendant des siècles réécrite et réinterprétée pour nourrir le roman national. Au fil des époques, la bataille se chargera de significations nouvelles. On fera d'elle la victoire du roi contre la féodalité, celle des communes contre la chevalerie. Pour l'une des premières fois, en effet, les hommes du peuple jouaient un rôle déterminant dans la guerre. Mais on pointera également, à l'époque moderne, l'un des premiers affrontements de la nation française contre ses ennemis héréditaires, l'Angleterre et l'Allemagne. Dans la réalité, il faut pourtant bien se souvenir que les rois plantagenais étaient des seigneurs 100% français avant de régner sur l'Angleterre. Quant aux Germains, menés par un empereur au pouvoir incertain, arrivés là par un jeu d'alliance, ils n'étaient ni les plus nombreux ni les plus déterminés sur le champ de bataille. En 1870 et 1914, on invoquera pourtant largement le souvenir de Bouvines au moment d'affronter les féroces Teutons. Même l'alliance avec Dieu, affirmée par le Capétien, est à relativiser. Quelques années avant Bouvines, c'est le royaume de France que le pape avait frappé d'interdit. Non, Bouvines, décidément, ne peut pas se réduire aux légendes qui l'accompagnent depuis 8 siècles. Mais quand même, cette franche victoire du roi de France a bien d'autres histoires éloquentes à raconter, et elle représente en vérité une étape majeure dans la constitution de notre pays. Bouvines, oui, ce fut un sacré dimanche.
Europe 1, 15h, 16h, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de la bataille de Bouvines, dans Historiquement Vôtre sur Europe 1, Stéphane Bern reçoit ce mardi 23 avril l'essayiste Gaël Nofri.
Gaël Nofri, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. En quoi la bataille de Bouvines est-elle une étape essentielle dans la construction du sentiment national ?
Eh bien, c'est vraiment l'instant où le roi des Francs, l'héritier des comtes de Paris, devient véritablement le roi de France, parce que effectivement cette bataille symbolise à la fois le renforcement du pouvoir royal, l'unité de ce pouvoir, et en même temps les différentes confrontations que le sentiment national, que l'âme nationale aura à traverser au cours de l'histoire, que ce soit l'ennemi germanique, que ce soit l'anglais, que ce soit la tentation impériale ou que ce soit l'ennemi intérieur et le ferment de la division. Donc il y a véritablement là, en gestation, non pas la France moderne, mais les fondements de la France moderne.
Gaël Nofri, vous publiez donc Bouvines, l'invention de la souveraineté aux éditions passées composées. Dans l'introduction, vous écrivez que la France est la plus improbable des grandes nations de notre continent. Pour quelle raison ? Expliquez-nous.
Elle n'est pas une réalité géographique évidente. Elle n'est pas une réalité non plus, une homogénéité de peuplement, pourrait-on dire. Et en même temps, elle est sans doute la première à s'être imposée. Peut-être d'ailleurs, parce qu'elle n'était pas cette réalité géographique évidente, elle est le fait d'une volonté, d'une action dans l'histoire et sur l'histoire, c'est l'action d'abord et avant tout des Capétiens. Et à ce titre-là, Bouvines joue un rôle essentiel. C'est la volonté de faire perdurer, ou de faire émerger plus exactement, une souveraineté sur ce territoire et de constituer ce qu'on appellera plus tard le précaré capétien sur ce qui est sous Philippe Auguste encore le royaume de France et qui s'élargira plus tard avec Philippe le Bel, mais dans cette idée de précaré capétien, en tout cas, qui va donner corps et vie à la France.
Philippe Auguste est, selon vous, l'artisan de la souveraineté. Quelle définition en donnez-vous et quels aspects de la politique menée par ce roi capétien s'apparentent à cette doctrine qui est moderne, selon vous ?
Oui, bien sûr. Il ne faut pas non plus anticiper Jean Bodin 3 siècles auparavant, mais il y a chez Philippe Auguste véritablement cette volonté d'asseoir la souveraineté. Le roi de France est certes loin du Seigneur, dans le sacre de Reims qui commémore le baptême de Clovis, quelque part. Mais en même temps, l'idée que la souveraineté est un fait réel qui doit s'appliquer au territoire est une idée totalement moderne pour l'époque. Et Philippe Auguste va n'avoir de cesse, d'abord, de se servir de l'ensemble des outils que le monde féodal et le droit féodal met à sa disposition pour asseoir son pouvoir et à la fois s'inscrire et s'extraire de la pyramide féodale. Il n'appartient pas à la pyramide féodale, mais il se sert de l'ensemble des outils de la pyramide féodale. Les rois de France s'extraient parce qu'ils sont au-dessus de la pyramide féodale, mais en même temps, ils vont asseoir ils sont à la fois les premiers, mais aussi d'une autre nature que les autres seigneurs. Et ça va se traduire à la fois par l'extension du domaine royal, qui est la source première de la souveraineté, mais aussi par le renforcement de Paris comme capitale, mais aussi par la volonté d'avoir des ordonnances qui acquièrent progressivement un caractère de loi, hein, avec notamment l'ordonnance testament qu'il fait avant de partir en croisade. Partout, Philippe Auguste fait triompher cette vision d'une royauté qui n'est pas seulement un apparat, mais qui est un poids réel, immédiat, dans l'organisation du pouvoir. Le roi règne, mais gouverne aussi.
Le 27 juillet 1214, Philippe Auguste et ses troupes remportent donc la bataille de Bouvines. À partir de quand considère-t-on cette date comme un moment fondateur de la France? Comment la bataille de Bouvines va-t-elle être instrumentalisée et insérée dans le roman national?
Très rapidement, parce que Philippe Auguste lui-même et ses successeurs et son fils Louis VIII vont faire de la bataille de Bouvines un moment central du règne de Philippe Auguste. Donc très rapidement, cela rentre dans, je dirais, l'historiographie capétienne. Sous Louis XIV, par exemple, Mézeray, dans son Histoire de France, hein, Louis XIV, parlera de Bouvines comme un moment fondateur. Et évidemment, cela va se développer au XIXe siècle, pour plein de raisons. D'abord parce que Charles X, effectivement, va l'utiliser pour montrer à la fois le rôle protecteur du roi de France, mais aussi le rôle du roi de France choisi et adoubé, et soutenu, en tout cas pas adoubé, mais choisi par la noblesse française, soutenu par le peuple et triomphant avec l'aide de Dieu. On est dans cette vision d'une monarchie là, et ce sera réutilisé ensuite, puisque c'est le roi de France soutenu par les communes, même si on peut discuter du rôle éminemment, mais effectivement les communes sont présentes à la bataille de Bouvines. Et donc le roi de France soutenu par les communes, ça s'inscrit à la fois dans la monarchie de Juillet, dans la monarchie bourgeoise de Louis-Philippe, et puis même avec la République, Bouvines, la Troisième République et son, je dirais, son rapport au monde germanique et issu de la défaite de 1870 vont faire que effectivement Bouvines reste central. En 1914, il va y avoir de grandes célébrations juste avant la Première Guerre mondiale, de la bataille de Bouvines, et même dans l'entre-deux-guerres, Jacques Bainville parlera même du début du sentiment national, mais on sait que Jacques Bainville est un peu à un rapport particulier avec le monde germanique, qu'il connaît bien, mais il en fera vraiment le point de départ, et Paul Bourget parlera de la bataille de la Marne, comme la bataille de Bouvines 700 ans après.
Je fais une incise parce que c'est intéressant, mais comment vous expliquez qu'en 2014, le monde politique, l'exécutif, a fait le strict minimum? C'est-à-dire que autant en 1914, on a célébré Bouvines, autant on s'est bien gardé de le faire en 2014.
Je pense que ça en dit long de notre rapport à l'histoire. Je pense que, d'abord, on a un rapport à l'histoire antérieur, je dirais, à la Révolution, qui est compliqué dans ce pays, incontestablement. Et puis, je pense qu'on a aussi l'idée que tout ce qui est en rapport avec les guerres, tout ce qui est en rapport avec les batailles, est chose du passé enterré. Ce qui, malheureusement, est faux. On voit bien qu'il y a des constantes et que l'histoire est un éternel recommencement.
Eh bien, cet après-midi, Historiquement Vôtre vous raconte la bataille de Bouvines, un tournant dans l'histoire du royaume des Francs. On continue à en parler avec vous, Gaëlle Neufry.
Et juste après, un petit peu de musique sur Europe 1. Cet après-midi, je vous propose d'écouter cette reprise du titre de Charles et Eddie, sorti en 1992, reprise de Texas et Spooner Allman. Voici Would I Lie to You sur Europe 1.
Everybody wants to know the truth. In my arms is the only proof. I've hidden my heart behind the bedroom door. Now it's open, I can do no more. I'm telling you, baby, you will never find another boy.
Et le musicien américain Spooner Holman reprennent Would I Lie to You sur Europe 1. Et merci à vous, chers auditeurs d'Europe 1. Et oui, les chiffres d'audience de la radio ont été publiés jeudi dernier par Médiamétrie. Et très bonne nouvelle, la famille Europe 1 s'agrandit encore. Nous sommes fiers et heureux de souhaiter la bienvenue aux 223 000 nouveaux auditeurs qui écoutent Europe 1 tous les jours. C'est d'ailleurs la meilleure progression des radios généralistes au total. Vous êtes donc désormais 2 387 000 à écouter Europe 1. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et votre confiance.
Europe 1, 15h-16h,
historiquement vôtre.
Et de 15h à 16h chaque après-midi du lundi au vendredi sur Europe 1, c'est Stéphane Bern que vous écoutez dans Historiquement vôtre. Et aujourd'hui, il nous parle de la bataille de Bouvines, un tournant dans l'histoire du royaume des Francs, avec son invité du jour, l'essayiste Gaël Nofri.
Gaël Nofri, le 27 juillet 1214, c'est donc la bataille de Bouvines. On a parlé de comment on l'a inséré dans le roman national, mais les témoins de l'époque, ceux qui y participaient, est-ce qu'ils ont conscience de ce qui se joue? Est-ce que les sources nous renseignent sur cette question?
Alors, les sources, c'est essentiellement effectivement Guillaume le Breton, qui lui, l'ayant vécu et vivant à cette époque, en a en tout cas une conscience très aiguë. De même que si l'on en croit la chronique, mais étant une chronique rédigée, je dirais...
Postérieurement, mais
quand même dans la foulée, elle ne peut pas être très éloignée. Elle décrit, notamment à Paris, des mouvements de liesse. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que pour l'époque, elle va avoir revêtir un aspect important parce que elle va avoir des effets particulièrement longs. Ça, effectivement, au moment de la bataille, on ne peut pas le pressentir. Mais l'organisation telle qu'elle était faite de cette bataille, la coordination entre les troupes anglaises d'un côté et les troupes placées sous le commandement d'Othon IV de Brunswick, l'empereur germanique au nord, fait qu'on a quand même conscience à ce moment-là d'une bataille importante, destinée à diviser notamment les troupes françaises et à une invasion coordonnée. Après, on ne peut pas avoir... il est probable que ceux qui se sont battus ce jour-là n'avaient pas conscience de l'impact qu'elle aurait durablement dans la construction.
Il y a une chose, cependant, Gaël Neufry, c'est que si on se replace dans le contexte de l'époque, en juillet 1214, les hommes ne peuvent pas se battre pour la France, puisqu'elle n'existe pas vraiment. Ils se battent surtout, à commencer par les barons fidèles, pour le roi des Francs.
C'est vrai.
Les règles féodales, je veux dire.
C'est vrai, les règles féodales s'appliquent, mais là aussi, les règles féodales s'appliquent, mais on le voit, certains vassaux ont trahi leurs engagements, d'autres ne l'ont pas fait. Effectivement, on ne se bat pas pour la France. Avec, quand même, quelques bémols, c'est que d'abord, dans le discours de Guillaume le Breton, effectivement, il y a cette invective à mort les Français. Bon, réelle ou pas, elle est sans doute réelle pour avoir été insérée là, elle dit quand même quelque chose. C'est que d'ores et déjà, il y a, les Français sont peut-être alors vécus comme les vassaux du roi de France, mais elle est vécue quand même comme une réalité, comme une identification. Philippe Auguste a commencé à se faire appeler dans certains actes roi de France et plus roi des Francs. Il y a quelque chose véritablement en construction qui est propre à la France. Et sans doute au règne de Philippe Auguste, qui avait été commencé sous les Capétiens avant lui, mais qui est propre au règne de Philippe Auguste, c'est la fixité nationale, le sentiment de fixité nationale qui travaille la France à une époque où elle ne concerne pas du tout le monde germanique et sans doute n'embarrasse pas les Plantagenets qui effectivement sont une dynastie d'extraction française mais qui s'est réalisée à l'étranger, qui sont désormais vécus comme étrangers. Et d'ailleurs, ça aura des suites pour la suite, puisque pendant la guerre de Cent Ans, ce sera en réalité la raison principale qui amènera la France à sortir les rois d'Angleterre de la succession, pour ne pas qu'un étranger, fût-il d'extraction française, règne sur le royaume de France.
Si on parle du récit de la bataille de Bouvines, tel qu'il nous est parvenu, on a parlé ensemble de Guillaume le Breton, qui était témoin de l'événement. En tant qu'historien, comment on doit traiter son récit tout est exact, ou il a enjolivé et puis, autre question, est-ce qu'on a des récits de la bataille par d'autres voies que la voie française, si je puis dire ?
Alors, effectivement, Guillaume le Breton est un clerc, il est chapelain du roi de France, et donc il va réaliser deux documents, les Philippiques, et plus tard, il poursuivra la vie de Philippe Auguste, qu'avait entamé Rigord avant lui. Et évidemment, c'est hagiographique. Donc, il faut prendre effectivement de la distance avec ce texte. Pour autant, étant témoin direct et écrivant dans la foulée, on sait qu'il va réécrire certains aspects de ses œuvres, notamment sur le mariage de Philippe Auguste et les déboires conjugaux qu'il va pouvoir avoir et mener à un interdit sur le royaume. Mais sur les grands axes, il est évident que c'est une source principale, majeure, et qu'elle reste digne d'intérêt et de foi, non seulement sur ce qui s'est passé, mais aussi sur ce qui pouvait être admis par les gens de l'époque.
Un mot sur l'évolution des frontières du domaine royal sous le règne de Philippe Auguste. On a parlé de l'évolution, évidemment, donc le domaine royal s'agrandit, on approche pratiquement des frontières de la France actuelle.
Alors, il y a un paradoxe sous Philippe Auguste, c'est que le royaume de France ne grandit pas. Le royaume de France, dans sa définition, le royaume de France va rester stable à peu près entre l'an 1000, puisque c'est juste avant l'an 1000 que la Bretagne reconnaît définitivement la suzeraineté française, donc qui est intégrée au royaume de France, et que le comté de Barcelone s'en détache, et Philippe le Bel. En revanche, sous Philippe Auguste, deux choses se passent. L'un, sur le domaine royal, effectivement, le domaine royal va être décuplé. C'est la Normandie, c'est le comté d'Auvergne, c'est l'Anjou, le Maine, la Touraine, le Saintonge, c'est le Vexin normand, l'Artois, l'Amiénois et le Vendômois, notamment. Et puis, il prépare surtout des actions futures. L'œuvre de Philippe Auguste va permettre aussi, après lui, d'étendre le royaume, là, cette fois, parce que l'affaiblissement de l'Empire après l'échec d'Othon IV, qui va permettre l'arrivée de Frédéric II, qui sera un empereur beaucoup plus tourné vers les questions italiennes, méditerranéennes, au point de revêtir fictivement la couronne de Jérusalem, et le grand interrègne qui va suivre, va permettre à la France de marquer des points, je dirais, sur cette France médiane, ses limites est de la France, et préparer l'intégration à terme des comtés de Provence, des comtés de Bourgogne, plus tardifs d'ailleurs, et surtout du Lyonnais et du Dauphinois.
Gaël Nofré, vous écrivez que ceux qui considèrent que la bataille de Bouvines est l'instant d'un passé révolu se trompe. Cet événement illustre pour vous certaines constantes de notre histoire nationale, lesquelles ?
D'abord la volonté. Le travail des Capétiens et de Philippe Auguste est un travail de volonté, de durée, dans le temps. Ensuite, le fait que les conflits ne cessent jamais, et malheureusement l'actualité le prouve. Il y a toujours des adversaires. Peut-être sont-ils moins visibles, mais une nation a toujours des adversaires, il y a toujours des guerres, et même si certains avaient voulu croire à la fin des conflits, on voit bien que tel n'est pas le cas. Il y a toujours des velléités impériales ou de domination au-delà des nations, et il y a toujours un parti de l'étranger ou les ferments d'une division intérieure. Donc, finalement, toutes ces vieilles choses sont très neuves. Et c'est une phrase, je crois, du Guépard. Il faut que tout change pour que rien ne change. Et ça se prouve chaque jour.
Mais merci beaucoup, Gaël Nofré, de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de la bataille de Bouvines, un tournant dans l'histoire du royaume des Francs. Je rappelle que votre livre « Bouvines, l'invention de la souveraineté » vient de paraître aux éditions Passé Composé.
Et avec Stéphane Bern, l'histoire continue demain sur Europe 1.
Demain, branchez les guitares, on change totalement de sujet. C'est notre force, hein, vous le savez, dans Historiquement Vôtre. Je vous raconte Sister Rosetta Tharpe, l'inventrice du rock'n'roll. D'ici là, bon après-midi sur Europe 1 et moi, je vais réviser mon anglais.
Et oui, pour avoir un super accent. Stéphane Bern de retour donc demain dès 15h sur Europe 1. Et pour le moment, il est bientôt 16h. C'est l'heure de retrouver Sophie Davant avec toute sa bande de copains pour tenter de gagner un beau jackpot, 1200 euros aujourd'hui. Sophie, bonjour.
Et oui, c'est le moment où jamais de s'inscrire. Vous envoyez un SMS, vous tapez Sophie, vous l'envoyez au 739-21. Clément Lanoux, Mélanie Gomez et Caroline Margeridon autour de la table pour jouer avec vous. A tout de suite.
Bonne émission.
Europe 1. Une série de crimes hors normes. Un réalisateur fou retiré dans ses montagnes. Une étudiante en cinéma trop curieuse. Pour l'inspecteur Servaz, l'horreur vient d'entrer en scène. Découvrez Un œil dans la nuit, un thriller glaçant de Bernard Minier aux éditions Pocket.
Trop de boulot. Tu sais si on a une bonne couverture dans cette boîte ?
Ah oui, ici on a le top de la couverture, hein, en lin, en coton et même en marbre. C'est classe, mais c'est un peu froid.
Attendre des siècles une bonne couverture santé pour vos salariés, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, vos collaborateurs bénéficient d'une couverture santé adaptée à leur secteur d'activité et ses obligations et ont accès à des ateliers de prévention sur mesure. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Souscription, informations et conditions sur aesio.fr ou auprès de nos conseillers.
Europe 1, Sophie Davant.
1200 euros dans le jackpot, venez jouer avec nous. Je suis sûre que vous allez passer un bon moment. Il est 16h sur Europe 1. Le flash avec Émilie Dez. Bonjour Émilie.
Bonjour Sophie, bonjour à tous. Jean-Luc Mélenchon dénonce un événement sans précédent ayant pour but de protéger un génocide. La chef de file des députés insoumis, Mathilde Panot, est convoquée par la police pour apologie du terrorisme. Le 7 octobre, le groupe LFI avait publié un communiqué qui